Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirica.
Au sommaire de cette édition, la CENI s'est dit disposée à faire face aux défis opérationnels liés aux élections de décembre prochain. Parmi ces défis, il y a notamment le repérage des bureaux de vote, l'identification et le recrutement du personnel, mais aussi le déploiement du matériel. L'OMS annonce l'introduction de 5 nouveaux médicaments essentiels approuvés contre le virus d'Ebola qui sévit à Beni depuis 27 jours au Nord Kivu. Le porte-parole de cette organisation internationale affirme que ces médicaments sont porteurs d'espoir. Le nouveau président de la cour d'appel de Kananga au Kasaï central attend plaider pour le déploiement rapide des magistrats dans son ressort. Objectif, restaurer ce secteur dans cette région post-conflit. Jean Badibanga est l'invité de Radio Okapi ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. La CENI se déclare disposée à faire face aux défis opérationnels des activités électorales à venir. C'est ce qui ressort en tout cas d'une séance de travail du bureau TENUS lundi ici à Kinshasa. Parmi ces activités, les dirigeants de cette institution d'appui à la démocratie parlent du repérage des bureaux de vote, de l'identification et du recrutement du personnel, du déploiement du matériel électoral ainsi que de la sensibilisation de la population sur la machine à voter. Des précisions avec vous, Paul Matendo.
Il s'agit pour la CENI de mettre les bouchées doubles pour entamer les préparatifs des autres phases calendaires. C'est dans ce contexte que son bureau a examiné les niveaux d'avancement des activités opérationnelles qui s'effectuaient en parallèle à celles des réceptions et des traitements des candidatures. Le bureau de la CENI a également évalué les défis opérationnels liés à d'autres activités telles que les repérages des bureaux de vote, l'identification et le recrutement du personnel qui doit travailler dans ce bureau, le déploiement des matériels et la formation électorale ainsi que la sensibilisation de la population sur la machine à voter. Par ailleurs, le bureau de la CENI s'est dit prêt à accorder une attention soutenue pour les suivis des recours à la Cour constitutionnelle. Au cours de cette séance de travail, Corneille Nanga, président de la CENI, a rendu compte aux membres du bureau des orientations transmises aux secrétaires exécutifs provinciaux venus à Kinshasa pour déposer les dossiers physiques des candidats députés nationaux.
Merci Paul Matendo. C'est en principe ce lundi que la CENI, le MLC devait déposer son recours à la Cour constitutionnelle en annulation de l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo par la CENI la semaine dernière ici à Kinshasa. L'inspecteur général de ce parti politique affirme à Radio Okapi que cette décision a été prise par le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, après évaluation de la situation avec l'espoir que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict en toute indépendance. Le professeur Jacques Joly est au micro de Pierre Elamegi.
Après évaluation, les sentiments de dégoût et de désespoir de la population a, en tant que légaliste, a pris l'option de donner une chance à la plus haute juridiction du pays de montrer son indépendance et sa capacité de s'extraire des contingences politiques. Et dans ce sens, puisque nous ne disposions que de 48 heures. Je voudrais dire par ailleurs que ce n'est qu'hier à 16 heures que nous avons été notifiés, mais pour éviter de donner des arguments ou des prétextes aux uns aux autres, au courant de la journée, l'équipe d'avocats du MLC va pouvoir déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
Dans le même chapitre, notez que les avocats de l'ancien Premier ministre de la RDC, Adolphe Mouzito, se préparent à déposer le recours à la Cour constitutionnelle. Invité ce lundi au magazine Parole aux auditeurs, Steve Kivuata, son porte-parole, estime que la CENI s'est trompée et est allée trop loin. Il est au micro de Jirlungembo.
Non, la CENI est allée au-delà de la loi, parce que tout simplement, dans le cas du l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, candidat à la présidentielle, la CENI a donné comme motif le soi-disant conflit d'intérêts en se basant sur l'article 15 de la loi électorale. Pourtant, l'article 15 de la loi électorale parle de cas où un regroupement politique présenterait deux listes sur une même circonscription électorale. Or, même sans être juriste, il vous souviendra qu'Adolphe Mouzito ne s'est pas présenté ni comme Palou, parti politique, ni comme candidat du Palou allié, qui est le regroupement politique là où se trouve le Palou. Il s'est présenté comme UREP, qui est un des regroupements politiques qui soutient sa candidature dans le cadre du Nouvel Élan. Quand on voit seulement cet aspect-là, on dit que là, la CENI s'est trompée et je ne voudrais pas aller loin pour dire qu'elle a été manipulée ou instrumentalisée.
Et puis, la présidente de l'ONG Fondation Papagnoka dénonce la disqualification de l'unique candidature féminine à l'élection présidentielle de décembre prochain à RDC. Marie-Joséphine Mbété espère que la Cour constitutionnelle va corriger cette injustice, selon elle, en vue de la parité. Ses propos sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
D'après ce que j'avais suivi, la maman ne savait pas qu'il fallait demander un jeton. Vous voyez, c'était une information qu'elle n'avait pas. Donc, ne fût-ce que pour cet aspect des problèmes, nous plaidons pour ça. Concrètement, nous nous sommes organisés de bouche à oreille pour sensibiliser les mamans au moment des votes de se tenir debout. Debout autour d'un idéal, voter femme, unie, parce que l'union fait la force. Si nous avons des candidats femmes, j'ose croire qu'il y aura moins de détournements, moins de criminalité, parce qu'une maman est plus responsable, à mon humble avis, qu'un homme. Parce que à travers les entreprises de la capitale, la plupart des trésoriers, ce sont des femmes. Ça prouve que les femmes sont des bons gestionnaires. Alors pourquoi pas nous donner cette opportunité de postuler à la présidence de la République, pourquoi?
Pour mémoire, sachez que le week-end dernier, la CENI a déclaré irrécevable 6 candidats à l'élection présidentielle parmi les 25 dont les dossiers avaient été réceptionnés. Notez par ailleurs qu'à la députation nationale, plusieurs dossiers ont été invalidés parmi lesquels ceux des indépendants et membres des partis ou regroupements politiques. Les raisons de ce rejet avec vous, Tina Salama.
Selon la décision de la Commission électorale nationale indépendante, 5 raisons ont été retenues pour juger irrécevables les dossiers de certains candidats. Il s'agit tout d'abord de la détention d'une nationalité étrangère, autre que la nationalité congolaise. Ensuite, la condamnation à une peine irrévocable prévue par la loi électorale, l'inéligibilité pour dissimulation d'une profession déclarant comme inéligible ou nécessitant la production d'une demande mise en disponibilité et le dépôt des dossiers de candidature dans plusieurs circonscriptions pour le compte des différents partis ou regroupements politiques. Puis enfin, la raison du dépôt de dossier ne contenant pas la preuve des paiements des frais exigés pour le dépôt de candidature. En tout, c'est une centaine de dossiers qui ont été rejetés par la CENI. Dans la catégorie des personnes ayant une nationalité étrangère figurent par exemple l'ancien gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baende, l'ancien gouverneur du Kassai, Alex Kandé, ou alors José Ndundo, ancien ministre de l'Environnement. Dans la catégorie des personnes condamnées à une peine irrévocable, on retrouve notamment le député MLC Fidel Babala. Notez que les candidats à la députation nationale, dont les dossiers ont été rejetés, en 5 jours, à dater du jour de la publication de la liste provisoire pour déposer le recours à la Cour constitutionnelle.
Merci Tina Salama pour ces précisions. 5 blessés graves, destruction du siège du parti Lumumbiste unifié et beaucoup de biens emportés, bilan des manifestations le week-end dernier à Gungu suite à l'invalidation d'Antoine Gizenga Fundji et d'Adolphe Mouzito à l'élection présidentielle de décembre prochain. Le commandant de la police nationale dans la province du Kwilu est arrivé hier après-midi sous les lieux pour enquêter et identifier les auteurs de ces actes. Le récit de Fabien Kambinzi.
Plusieurs sources sur terrain parlent du siège permanent du Palou, saccagé et bien emporté. 5 personnes blessées, dont 3 en état grave. La résidence du secrétaire provincial du Palou pillé et le matériel de la radio RTVS Ngungu installé dans le bâtiment du Palou aussi emporté. Tels sont les dégâts constatés par la société civile territoriale de Gungu. Selon Joachim Kusamba, il est difficile pour l'instant de connaître les vrais commanditaires de ces actes car il existe à ce jour des tendances au sein du Palou qui ne se dévoilent pas. Sur place à Gungu, poursuit-il, certains militants et cadres sont pour les patriarches Antoine Gizenga et d'autres pour Adolphe Mouzito. Du côté secrétaire provincial du Palou Gungu, Moulele Yaya, celui-ci pointe du doigt un groupe de militants manipulés par certains cadres du Palou qui n'ont pas trouvé leur compte dans la nouvelle configuration du parti, notamment en ce qui concerne les candidatures présentées par leur directoire du parti à tous les niveaux aux prochaines élections. Signalons le début ce lundi des enquêtes par le commandant provincial de la PNC Kwilu qui se trouve depuis dimanche à Gungu Cité. Kikwite, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce l'introduction de 5 nouveaux médicaments essentiels qui ont été approuvés en plus du vaccin contre le virus Ebola déclaré dans les territoires de Beni au Nord Kivu depuis 27 jours. En mission dans cette ville, la porte-parole de l'OMS affirme que ces médicaments sont porteurs d'espoir. Tariq le dit à Christian Mapendano.
On se réjouit tous en fait que pour la première fois qu'on peut administrer ces nouveaux traitements à des patients. Il s'agit de 5 molécules différentes, 3 qui agissent sur le système d'anticorps et 2 qui sont des médicaments antiviraux. Ces 5 molécules sont approuvées par le comité scientifique et le comité éthique de la République démocratique du Congo pour l'usage sur la base compassionnelle. Et donc voilà, il y a déjà une quinzaine de patients qui ont reçu 2 de ces 5 molécules approuvées. Tous les 5 sont disponibles. Donc, c'est ces nouveaux outils qui sont ajoutés au vaccin qui a été déjà donc développé et qui présente non seulement un espoir pour les patients et la communauté, mais aussi c'est un grand pas en avant en ce qui est l'équité d'accès. Maintenant, on peut dire que les patients, où ils soient, dans n'importe quel pays, ont accès à ce que la science a produit de mieux pour traiter Ebola.
En Ituri, 2 soldats des FARDC ont été tués et leurs corps décapités hier dimanche après-midi au village de Ladejo, en territoire de Djougou. C'était au cours d'un accrochage avec des hommes armés. Selon des sources locales, ces militaires des FARDC étaient en patrouille. L'armée nationale annonce l'arrestation de quelques suspects. Une correspondance de Martial Kizabiamungu.
Les hommes tués sont un sergent-major et un sergent du 1301e régiment de FARDC basé à Largou, en territoire d'Ndjougou, à environ 70 km au nord de Bounia. Selon des sources sécuritaires, ils quittaient Largou et se rendaient dans une autre position vers le groupement Laoudjo. Arrivés dans la localité Ladejo, des hommes armés de fusils et machettes leur ont tendu une embuscade. Toujours d'après la même source, il s'en est suivi un échange de tirs pendant quelques minutes avant que ces militaires soient tués. Leurs armes ont été récupérés par leurs assaillants. Ces derniers ont décapité les corps de ces 2 soldats avant de se retirer dans la brousse. Ces informations sont confirmées par plusieurs sources et la coordination de la société civile de l'Ituri. Son coordonnateur, Jean Bosco Lalo, déclare que tant que les vrais assaillants de Ndjougou n'ont pas été clairement identifiés et désarmés, ce territoire est loin de recouvrer la paix. Les porte-parole de l'armée à l'Ituri, Gilles Ngongo, confirme la mort de ces hommes. Il annonce l'arrestation de certaines personnes considérées comme des complices des assaillants. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
La situation restait tendue cet après-midi dans le village de Pitakongo après les affrontements de ce lundi matin entre les miliciens de NDC Rénové et ceux de Mazembe au sud du territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon la société civile locale, ces affrontements interviennent 2 jours après l'attaque de Mai Mai NDC Rénové contre une position de FARDC à Kassou. C'est ce que nous raconte Bernard.
C'est vers 4h du matin ce lundi que les combattants de Nduma Defense of Congo NDC Rénové, venus probablement de Mwanga, ont lancé cette attaque contre le village Pitakongo. Celui-ci est exclusivement contrôlé par les Mai Mai Mazembe depuis près de 3 ans, indiquent les sources coutumières et la société civile locale. Les accrochages auraient duré au moins 2 heures avant que le groupe NDC Rénové ne décroche. Il y aurait eu des blessés et des morts parmi les assaillants et le village complètement pillé, indiquent ses sources. Tôt samedi matin, des éléments NDC Rénové avaient tenté de faire une autre incursion dans l'agglomération de Kassouo, plus au nord de Pitakongo, dans le même groupement Moussindi, avant d'être repoussés par l'armée. Au moins 4 de leurs éléments auraient été tués et un autre capturé, précisent les sources administratives locales. L'administrateur du territoire de Lubero, qui déplore ces attaques, dit que des dispositions sont déjà prises pour que l'armée se redéploie dans toute cette zone encore occupée par les Mai Mai. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Direction la province du Bazouélé, où les rebelles ougandais de la LR ont attaqué hier dimanche après-midi la localité de Banda, située à 185 km à l'est de la cité d'Ango. Selon des témoins, cette incursion de la LRA a coûté la vie à 2 policiers. Radio Okapi Kisangani, Jacques Mukonkole.
Des sources sur place à Banda renseignent que 3 policiers effectuaient la patrouille nocturne lorsqu'ils ont été attaqués par des éléments de la LRA vers 1h30. 2 policiers sont tombés sous les coups de balles des rebelles ougandais tandis que le 3e, grièvement blessé, a réussi à s'enfuir. Présentement, il est admis dans un centre de santé de la place. Les mêmes sources précisent qu'hormis le commandant de la police, les deux policiers tués sont les seuls matriculés et payés sur les trois que compte cette localité de 13 000 habitants. Le troisième élément, celui-là qui est blessé, est une nouvelle recrue. Outre ce meurtre, les éléments de la LRA ont aussi pillé des officines pharmaceutiques et des boutiques. L'administrateur du territoire d'Ango, Joseph Kambili, confirme ces informations. Il précise que ces supposés LRA, au nombre de 30, dont 15 habillés en tenue militaire, ont kidnappé 30 personnes, parmi elles une femme et son bébé. Cette dernière a été relâchée plus tard. En réunion ce matin, le comité territorial de sécurité annonce la poursuite des assaillants par des FRDC depuis hier. Si les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, la rentrée scolaire risque d'être hypothéquée dans cette contrée, prévient la société civile locale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité Afrique Monde.
Et maintenant, les nouvelles de l'étranger. Commençons par la République centrafricaine. Des affrontements meurtriers ont opposé samedi et hier dimanche après-midi des groupes armés à Bria, dans le centre du pays. Il s'agit des anti-Balaka prétendant défendre les non-musulmans. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées dans les deux camps, a déclaré aujourd'hui à la presse le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a indiqué que les forces de sécurité centrafricaines et la police onusienne ont pris des mesures sécuritaires et sont en état d'alerte dans la ville. En Ouganda, le chanteur et député national Bobi Wine, inculpé de trahison, a été libéré ce lundi après-midi sous caution par un tribunal du nord du pays après deux semaines de détention. Il avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d'un incident à Arua au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni Kaguta qui était venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Le pape François n'a pas jugé nécessaire dimanche après-midi de commenter des graves accusations portées contre lui dans un texte selon lequel il aurait couvert durant son pontificat les agissements du cardinal américain Théodore McCarrick qui est accusé publiquement en juillet dernier d'abus sexuels. J'ai tant souffert en parlant samedi avec 8 victimes irlandaises d'abus sexuels, a confié dimanche le pape François dans l'avion qui le ramenait de Dublin après une visite officielle de deux jours en Irlande.